Alors bonsoir et merci de nous avoir rejoints nombreux ce soir pour ce qui est donc le dernier rendez-vous de notre cycle littéraire qui, comme vous le savez, était intitulé « Écrire, écrire, pourquoi ?». Je remercie beaucoup Assia Djebbar d'être à mes côtés ce soir et d'avoir accepté d'être notre invitée. Avec elle, j'ai envie de dire, nous terminons en point d'orgue. Comment la présenter? Vous la connaissez bien entendu déjà et on ne la présente plus, c'est la formule habituelle. Mais tout de même, en quelques mots, eh bien, Assia Djebbar, j'ai eu la surprise de constater en préparant ce rendez-vous que vous n'étiez pas née Assia Djebbar, vous étiez née Fatima Zora Himalayan à Cherchel, qui est l'ancienne Césarée. Vous êtes née en pleine montagne, sans la route. Alors, je m'appuie sur la documentation du Monde qui, d'ores et déjà, est défaillante. Voilà.
C'est pas grave.
Et vous naissez dans... Alors, donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour corriger. Vous naissez dans une famille, me dit-on ici, de la petite bourgeoisie traditionnelle algérienne. Votre père, ça on le sait, et ça joue un grand rôle, est instituteur. Et votre mère, donc vous me parliez tout à l'heure au téléphone, qui semble être une dame pleine de tempérament et de courage à 92 ans, elle, justement, est berbère. À partir de 10 ans, vous étudiez au collège de Blida, en section classique, latin-grec. Et puis, vous obtenez votre baccalauréat, et puis vous entrez en Hippocagne à Alger. À Alger d'abord, puis en Cagne, à Paris, au lycée Fénelon. Et puis l'année suivante, c'est vraiment le parcours de l'excellente élève, vous entrez à Normale Sup de jeune fille à l'époque, donc de Sèvres. Et très peu de temps après, c'est-à-dire en 1957, vous vous lancez dans l'écriture avec votre premier roman, La Soif. Et puis vous ne cesserez plus à la fois d'écrire et d'enseigner, pour ce qui est de l'enseignement, notamment à Alger, où vous êtes professeur d'histoire à l'université d'Alger, jusqu'au milieu des années 60. Je suis obligée de passer, de marquer seulement les jalons importants. Et on vous retrouve au milieu des années 1990 comme directrice du Centre d'études françaises et francophones aux États-Unis, en Louisiane.
Mais 92 ou 13.
Oui, bon. Voilà, dans les années 90. Et puis, on poursuit sur le chemin des honneurs. En 99, là, vous êtes élu membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. À partir du début des années 2000, vous enseignez au département d'études françaises de NYU, c'est-à-dire New York University, l'Université de New York. Entre-temps, vous êtes couverte de prix. Vous obtenez notamment le prestigieux Friedenpreis, le prix de la paix des libraires et éditeurs allemands à la foire de Francfort. Vous êtes traduite en 21 langues, au moins. Ça, je suis sûre que le chiffre n'est pas exact non plus. 24, voilà. Et puis, consécration des consécrations, en 2005, vous êtes élue à l'Académie française, succédant au doyen Vedel. Alors, quelques-unes de vos œuvres principales. Là aussi, en 50 ans d'écriture, je calculais, ça fait donc presque exactement 50 ans, puisque je l'ai dit, vous avez commencé en 1957 avec votre premier roman, La Soif, et que l'année dernière, en 2007, vous nous avez donné Nulle part dans la maison de mon père. Et entre ces deux extrêmes, alors quelques romans pour mémoire. Je les prends à rebours. La disparition de la langue française, La femme sans sépulture, Vaste et la prison, L'amour, la fantasia, etc., etc. Comment commencer Assia Djebbar? Peut-être, au fond, l'intitulé de cette table ronde est très simple et très vaste. Pourquoi écrivez-vous? Ou écrire, écrire, pourquoi? J'ai envie de vous la poser comme ça, cette question d'emblée et délibérément très ouverte, parce qu'en général, j'ai constaté dans mon métier d'intervieweuse que les questions ouvertes donnent les réponses les plus inattendues et donc souvent les plus intéressantes.
Vous m'avez dit pourquoi écrivez-vous ?
Écrire pourquoi ou pourquoi écrivez-vous ?
Puisque vous avez comme ça détaillé ma biographie, donc en 50... Ah, pardon. Ça va ? Ok. Voilà. Ça va bien ? Oui, donc en 56, l'été 56, c'était ma première année de Sèvres, mais c'est en même temps l'année où les étudiants algériens décident de faire la grève des examens par solidarité avec, disons, le début de la guerre d'Algérie et donc avec les maquis. Eh bien, je fais la grève. Donc, je ne passe pas mes examens et comme j'étais en histoire, en principe, donc j'étais très copine avec les autres sévriennes. Donc, on travaille beaucoup, on a toujours 3 semaines, 4 semaines de... Et moi, j'étais là, et puis je décidais de pas passer mes examens. Donc, il y a eu une espèce de jeu avec le fiancé, entre guillemets, que j'avais, où j'ai dit, oh, ben tiens, après tout, je sais pas ce qu'il avait dit. Je lui ai dit, on peut écrire un roman en 20 jours, en 30 jours. Sous-entendu, un roman superficiel, c'est un jeu. Bon, alors il m'a prise au mot et je l'ai fait en un mois. Et je lui ai donné le manuscrit pour qu'il s'en occupe et j'ai eu tort parce que j'aurais préféré aller à ce moment-là au seuil parce que j'avais déjà eu un contact avec celui qui avait beaucoup soutenu Kateb Yassine, qui est toujours vivant, un Polonais. Michel Chodkiewicz, qui est devenu depuis un spécialiste de mystique musulmane. Mais comme je lui ai donné le texte, ben il l'a envoyé à M. Julliard. J'ai signé, alors pour signer mon contrat sur le chemin pour y aller, je disais surtout que mon père ne sache pas que c'est moi, voilà, c'est tout. C'est vraiment des anecdotes de j'avais exactement 20 ans, donc c'est des anecdotes de cet âge-là.
Alors ça, c'est les débuts dans l'édition.
Je le prenais pas au sérieux, oui. Voilà. Oui, oui. Voilà. Et du coup, lorsqu'il est sorti et qu'il fallait quand même, répondre à des intervieweurs ou quoi que ce soit, bon, j'étais mal à l'aise en fait. C'était un jeu, mais c'était pas un jeu qui me plaisait parce que j'avais une vraie haute idée de la littérature et donc j'aurais dû écrire, sortir quelque chose qui m'aurait demandé 3-4 ans d'effort. Bon. Alors donc j'ai décidé d'écrire un deuxième pour rectifier un peu le premier. Entre-temps, ma vie était plus passionnante que le roman que j'avais commis. C'est-à-dire que le fiancé était déjà dans la clandestinité. Et donc moi j'étais encore à Sèvres parce que la directrice était assez formidable, Madame Prenant. Elle a dit c'est un cas de conscience, on vous garde. Et donc, j'étais plus préoccupée par... il y avait déjà des menaces. Il y avait déjà un mouvement qu'on appelait le MNA qui menaçait de mort les gens du FLN. Donc, c'est moi qui recevais le téléphone. Donc, je peux raconter plein d'histoires. Comment j'ai enjambé le mur du boulevard Jourdan en pleine nuit. Comment j'ai couru dans... Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Mais moi, j'étais quand même en dehors de tout cela. Finalement... Après 3 ans, non, je ne passe pas mes examens, et donc je sors ce livre. Et la deuxième année, la conséquence de ce livre, finalement, ils ont su, parce qu'il y avait ma photo dans, je sais pas quoi, dans Elle, ou quelque chose comme ça. Et je me souviens, je n'allais toujours pas en Sorbonne. Et je restais à la bibliothèque de Sèvres. Alors, je raconte ça pour l'anecdote du milieu dans lequel on était. La bibliothécaire est venue me voir et elle m'a dit, il paraît que vous avez écrit un roman. J'ai dit oui, puisque je fais la grève et que je ne passe pas mes examens. Elle m'a dit cette phrase qui m'a paru étrange, que j'entendais pour la première fois, vous allez finir à l'hôpital. Et je ne savais pas ce que voulait dire cette expression. J'ai dit, bon, quand on meurt, on est malade et on va à l'hôpital. Donc j'ai demandé aux 3-4 copines historiennes, qu'est-ce que ça veut dire finir à l'hôpital ? Bien, ça voulait dire vous finirez dans la misère, parce que vous avez quand même une voie toute tracée anormale et vous êtes en train de... Voilà, ça c'est l'effet qu'a fait mon livre pour la bibliothécaire.
Et alors le deuxième roman dont vous nous parliez là, qui s'appelait Les Impatients.
Oui.
Est-ce que
alors il faut dire que tous ces romans, je les ai pas relus.
De façon satisfaisante le premier.
Peut-être un peu mieux, mais je les ai pas relus. Je sais grosso modo l'intrigue. Mais par contre, je crois que une fois il était sorti, il y a déjà quelque temps, il est sorti en allemand et j'avais à expliquer aux Allemands pourquoi j'avais écrit Les Impatients. Et j'ai constaté qu'en fait, bon, alors à ce moment-là, par contre, Madame Prenant était partie, est arrivée Madame, j'ai oublié son nom, mais elle avait été déjà la cause d'exclure, enfin, donc parce qu'il y avait eu 58. Et 58, donc, on me dit, elle me convoque et elle me dit, elle se disait poétesse, donc elle a cherché à me m'amadouer. Et j'étais un peu sauvage à ce moment-là, et puis surtout, j'aime pas qu'on me touche. Et donc, je me suis mise en colère, et j'ai dit, bon, écoutez, je ne passerai pas mes examens, mais si vous voulez... Si vous ne passez pas vos examens, votre place n'est pas là. J'ai dit, ok.
Et alors, c'est parti.
Je suis allée voir Jacqueline Risset, je lui ai dit, bon, je vais mettre ma malle dans la cave, d'ailleurs, je ne l'ai jamais reprise, et puis je suis partie. Mais du coup, étant partie, il fallait quand même que je vive avec cet homme. Et à l'époque, avec ma petite éducation très stricte, il fallait se marier. L'avantage d'être musulman, c'est qu'on peut vite être à Paris et c'est les parents qui, en Algérie, font le contrat de mariage. Donc on s'est mariés. Ma mère, la pauvre, est venue. Et puis, après, j'ai réfléchi. Parce qu'il fallait quand même trouver un lieu sûr pour le mari que l'on cherchait. Eh bien, donc j'ai vécu un an, deux ans, c'est comme ça que j'ai écrit Les Impatients, ou le troisième, je ne sais pas, dans un appartement d'un libraire en chambre, qui avait des livres formidables, mais lui, ça avait été le premier Français qui avait été arrêté, en prison, pour je sais pas quoi avec le FLN, mais alors il avait des livres incroyables. Donc finalement j'ai écrit ce livre là alors que maintenant ce qui me reste de ce livre, c'est le lieu où je l'ai écrit qui était plus, comment dire, qui aurait été susceptible d'être traité, au lieu de faire un roman comme ça très classique pour montrer qu'il est un peu moins superficiel que le premier.
Au fond, vous nous dites, alors le premier, c'était un peu par jeu, le deuxième...
C'est pour rectifier le côté un peu anodin du premier.
Oui, oui, mais tout ça, ça paraît extrêmement facile et...
Oui, parce que ma vie était quand même plus intéressante que ce que j'écrivais.
C'est-à-dire qu'au moment où vous quittez Normale Sup, vous n'avez pas conscience, même confusément, que vous renoncez à une carrière universitaire une carrière d'écrivain. Vous
ne
vous
dites
pas
«
je serai écrivain ».
Non, 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 pas du tout. Je pensais que vraiment, bon, quand la guerre d'Algérie serait finie, je serai prof. Si vous voulez, ma vraie frustration, c'est que j'ai passé le concours du premier coup parce que j'étais vraiment forte en philo. Donc j'ai eu des notes qui m'ont permis de passer. On était d'ailleurs les deux seuls, Jacqueline Risset et moi, à être passés du premier coup. Et en même temps, le même rang, donc on était copies. Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Finalement, elle a fait de la littérature italienne. Et moi, je voulais vraiment faire de la philosophie. Et Madame Prenant était une spécialiste de Spinoza et elle espérait que j'allais faire... Et moi, un peu, je dirais pas bêtement, mais un peu à courte vue, j'ai dit oui, mais pour étudier la philosophie, il faut que j'étudie la philosophie arabe. Et je ne suis... Alors ça, c'est le problème de l'éducation coloniale. On vous coupe de votre culture. J'ai fait tout le cursus français, mais je parlais arabe chez moi, évidemment. J'ai même appris le Coran, mais dont il me reste que quelques sourates. Et donc, j'ai bien vu que... On ne m'a pas dit, Mais je l'ai su après. On ne m'a pas dit, ben, quand vous êtes à Normale Sup, on peut vous envoyer à l'étranger pour apprendre votre langue. Donc, si on m'avait envoyé en Égypte ou en Syrie, ou à l'époque, c'était quand même, et là, ce n'est pas maintenant, mais à l'époque, c'est quand même Bagdad où on apprend le meilleur arabe. Et donc, si on m'avait dit ça, je serais allée, même en quittant le mari, et puis vraiment, il y aurait eu beaucoup de choses qui auraient changé dans ma vie. Alors non, je me suis mariée et puis j'ai dit, bon, ben, je vais faire de l'histoire. C'est comme ça que je suis historienne.
Ça, ce qui me fascine en vous entendant, je ne sais pas si par modestie, vous insistez sur le côté, sur le hasard et sur le jeu, mais quand même, même si par jeu on écrit un premier roman, même si par perfectionnisme on décide que le deuxième sera destiné à montrer qu'on peut faire mieux que le premier, il faut quand même avoir en soi, échevillé au corps, un vrai désir d'écrire, parce que c'est pas si simple.
Bien, je peux vous dire, vraiment, je suis sincère avec moi-même. Je pense même pas que c'est le troisième. C'était quoi? Vous avez la liste?
Alors,
les enfants du Nouveau Monde.
Si ma liste est juste, ce sont les enfants
du Nouveau Monde. Les enfants du Nouveau Monde, voilà. À partir du deuxième, où quand même, disons que l'idée du roman est venue d'une maison, disons supposée être à Alger, d'une maison où les femmes sont enfermées. Donc là, j'ai commencé vraiment à m'appuyer un peu sur mon milieu d'enfance, un peu. Et puis, le troisième, je l'ai écrit parce qu'entre-temps, eh bien, j'ai quitté la France, je me suis mariée, et puis on est passé comme on a pu pour aller en Tunisie. En Tunisie, j'ai commencé à voir la réalité, j'ai travaillé avec France Fanon, qui dirigeait la presse, et donc j'ai voulu aller aux frontières, parce que c'était après Sakiyet Sidi Youssef. Et là, vraiment, il y avait, juste à la frontière, il y avait quelque chose comme au moins 50 000 réfugiés algériens qui étaient des paysans des Aurès. J'ai commencé là à connaître mon peuple. Mais ça, ce n'était pas seulement moi. C'était comme ça à cette époque. Quand vous êtes fille et que vous êtes d'un milieu, vous restez dans ce milieu. C'est l'école, la maison et puis le petit milieu dans lequel vous êtes. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé quand même à voir des choses. Et j'en rends compte, non pas dans ce livre-là, Les enfants du Nouveau Monde. Les enfants du Nouveau Monde, si vous voulez, donc après la Tunisie, on a décidé d'aller au Maroc. Et dans la rue, j'ai rencontré Charles-André Julien, qui avait été mon prof d'histoire. Et il m'a dit, vous êtes là? Je lui ai dit, oui. Ah, j'ai besoin de vous à la fac. Le sultan Mohamed V l'avait nommé doyen de la faculté des lettres de Rabat. Donc je suis allée faire assistante, comme ça, brusquement. Et tout ça pour dire quoi? J'ai un peu oublié.
Moi, j'ai la question en tête. La question qui était sous-jacente à tout ça, c'est que je m'étonne finalement que je vous imaginais collégienne, lycéenne, puis en Hippocagne, rêvant d'écrire. Mais ce que vous dites, c'est que non, dans l'enfance, ce n'était pas un rêve.
Attendez, non, c'est pas ça. Si, si, bien sûr, à 12-13 ans, j'ai commis un petit livre.
Ah, on y vient. Caché.
Non, ce n'est pas le désir d'écrire que je n'avais pas. C'est que quand même, quand vous avez une bonne formation littéraire, les auteurs vous paraissent tellement grands que normalement vous attendez 5 ans, 6 ans, 7 ans pour commencer à écrire. Donc mon entrée a été une entrée par la petite porte.
D'accord.
Voilà, c'est tout. Et donc, pour en revenir, vous êtes aux enfants du Nouveau Monde.
Oui, on est dans les années 60.
Alors, les enfants du Nouveau Monde, j'étais au Maroc. Ma mère et ma belle-mère, que je ne connaissais pas, sont venues passer l'été à Casablanca. J'étais tantôt à Rabat, tantôt à Casablanca. J'ai adoré le Maroc. C'était vraiment une découverte. Et ma belle-mère qui est venue a commencé à raconter le quotidien, vu du point de vue des femmes, de la guerre d'Algérie dans son quartier à elle, qui était Blida. Et donc, je connaissais ce quartier. Les femmes vivaient dans des maisons avec patio. Il suffisait qu'elles se mettent au patio, elle regardait la guerre parce qu'il y avait l'Atlas, elle voyait la montagne. Et quand il y avait des opérations militaires françaises, quelquefois ça débordait jusque sur ce quartier.
Et elle me raconte une histoire toute bête. Elle me dit, ah oui, il y avait nos voisins, il y avait une vieille dame, très très vieille, donc ses belles filles ou ses filles la mettaient au soleil dans le patio. Et après, le soir, je ne sais pas quelle heure, elle la faisait rentrer. Et elle a dit, ce jour-là, les soldats français sont descendus de la montagne jusque sur nos terrasses pour poursuivre un maquisard ou je ne sais pas quoi. Et on ne s'est pas rendu compte qu'en tirant, une balle était tombée dans le patio et avait tué la vieille dame. Et c'est que le soir que, quand elles sont allées la chercher, elle était morte. Alors ce détail, mais dans un lieu que je connaissais, j'ai eu envie d'écrire le quotidien de cette ville de Blida que je connaissais bien, vu à partir des femmes. Donc je l'ai écrit très vite aussi.
D'accord. Voilà. Alors donc les femmes, l'Algérie, les racines, la mémoire, là on voit bien qu'on s'approche de ce qui forme le cœur de l'œuvre. Est-ce qu'à ce stade, vous voulez que je continue à vous asticoter avec mes questions sur les moteurs de l'écriture, ou bien est-ce que vous souhaitez faire maintenant la petite lecture que vous vouliez faire?
On va aller au quatrième, parce que c'est le quatrième qui me paraît être ma vraie entrée en écriture. Ah. Les Alouettes naïves.
Allez-y.
Alors, les Alouettes naïves, je me suis... Alors, attendez que je me rappelle comment j'ai commencé à l'écrire. Oui, je suis rentrée en 62 en Algérie, donc. Hein. Les enfants du Nouveau Monde sont sortis tard, parce qu'il y a eu un blocage du manuscrit entre Flamand, le directeur du Seuil, et Julien. Finalement, Julien a menacé de faire un procès. Et finalement, bon, ben, il a eu le livre, mais M. Julien est mort le jour de l'indépendance. Et moi, le jour de l'indépendance, je rentrais en Algérie. C'était à la fois mon anniversaire, mais c'était le jour du vote. Et c'était Françoise Giroud. J'étais repassée par Paris. Et c'était, alors, à chaque fois que j'étais en Algérie, pour passer par Paris... Eh bien, c'était Isabelle de Miribel qui était à l'ambassade de France qui me disait « Vous pouvez rentrer avec moi les frontières françaises parce que j'ai le passeport diplomatique. » Donc, je faisais ça pour mon livre. Mais moi, je n'étais pas recherchée. C'était simplement le nom que j'avais du mari. Et tout ça pour dire quoi
Donc, oui. Pourquoi, oui, alors, pourquoi les Alouettes naïves
Les Alouettes naïves
marquent à vos yeux la vraie entrée.
Si vous voulez, je suis rentrée donc pour le vote en Algérie comme reporter de Françoise Giroud et donc de, ça s'appelait l'Express peut-être, ou je ne sais pas quoi. Et donc j'ai fait mon travail, c'est-à-dire qu'au lieu de voter, je n'ai pas voté, jusqu'à maintenant je n'ai jamais voté. Bon, donc je n'ai pas voté, mais je suis allée quand même regarder les gens et faire... Et puis à partir de là, je suis allée à Tlemcen. Enfin, j'ai bougé pas mal. J'étais quand même dans l'enthousiasme de rentrer. Et à ce moment-là, donc, on m'a convoquée au moment de l'ouverture de la rentrée en me disant, puisque vous étiez à Normale Sup, on va vous mettre directrice de Normale Sup, de la Normale Sup algérienne. J'ai dit non, moi je ne veux pas de travail bureaucratique. Je veux être professeur d'histoire, point. Voilà, j'ai fait professeur d'histoire et j'ai pris du temps. Et c'était une ambiance. Pourquoi j'aime ce livre? Parce que je l'ai écrit. D'abord, c'est le premier que j'ai écrit chez moi, en Algérie. Et puis surtout, il y avait une ambiance entre 62 et 65 ou quelque chose comme ça, extraordinaire. Il y avait des étrangers de partout qui venaient aider l'Algérie, aussi bien à l'université qu'ailleurs. On restait dehors, on montait, on rentrait chez nous à minuit, une heure, tous les soirs le cinéma, comme on faisait au Maroc. Et donc, c'était dans une atmosphère collective qui était d'espoir. Et pendant ce temps, j'avais décidé que j'allais maintenant écrire. Alors, sont sortis les enfants du Nouveau Monde, je m'en fichais un peu. Je m'aperçois que maintenant, il faut que je fasse un bilan des années que j'avais traversées. Et donc, disons que dans les Alouettes naïves, j'ai fait un vrai bilan, mais en même temps, je me suis pris au jeu, enfin, de construire mon livre. Et depuis, ce qui me plaisait après, c'était vraiment la structure et le fait de construire. Donc à partir de là, je savais qu'après les Alouettes naïves, j'allais donc, à chaque fois que je sors d'un livre, en réalité, je voulais être architecte. Donc, alors, j'ai pas fait les études pour. Donc, quand j'ai vu que ce livre pouvait déborder de partout, mais qu'il fallait le construire, j'ai pris mon temps. Donc, c'est un vrai livre pour moi, c'est-à-dire ça représente mes efforts. Et c'est aussi un bilan de ma traversée entre 56 et... Il est sorti quand même en 67. Hein. 67, il est sorti. Julliard était mort, je l'ai donné à Christian Bourgois qui vient de mourir.
Donc, ce qui fait que c'est une étape importante à vos yeux, ce n'est pas tellement la langue ni la narration, c'est plutôt le fait qu'il soit architecturé.
Non, je ne dis pas que ce n'est pas la langue et ce n'est pas la narration. C'est que, comment dire, au fur et à mesure que vous rentrez dans votre sujet, pour le maîtriser, c'est au niveau quand même du squelette. Et puis vous découvrez. Au début, vous pensez faire quelque chose de simple, et puis ça part dans tous les sens. Et ça, ça me passionne. Donc j'ai bien mis 4 ans pour l'écrire, hein. J'ai pas fait comme pour les autres, ah oui, je vais montrer que j'écris en 30 jours. Depuis, je mets beaucoup de temps pour écrire mes livres.
Et d'ailleurs, entre si celui-là voulez... et le suivant aussi, il y a beaucoup de temps, puisque si cette liste est exacte,
ah oui,
vous
je
passez par des poèmes, par du théâtre,
non,
par des nouvelles.
Les poèmes, je les avais écrits quand j'étais au Maroc, un peu en arabe et un peu en français.
Ouais. Mais enfin, je constate qu'entre... ce roman-là, Les Alouettes naïves, dont vous venez de nous dire l'importance,
oui.
Et puis celui qui suivra, c'est-à-dire L'amour, la fantasia.
Non. Femme d'Alger, dans le
Il y a Femme d'Alger, voilà. Et qui...
Oui, mais qui est quand même de je sais pas quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est L'amour, la fantasia, c'est 85. Et le Femme d'Alger, c'est, je crois, 80 ou quelque chose comme ça. 80 79. Bon, ben oui, ce qui est arrivé entre les deux,
ça fait
d'abord c'est que ma vie a beaucoup changé, entre j'étais à Alger, je retourne à Paris, et puis après de Paris, à un moment donné, je retourne à l'université d'Alger, mais en littérature française, puisque l'histoire, oui voilà, le grand problème, pourquoi je suis partie en 65, parce que j'étais la seule à faire l'histoire. On avait beaucoup de coopérants, et il y avait des coopérants pour la géographie, mais l'histoire, j'étais la seule et j'étais passionnée, et j'avais des étudiants incroyables, de mon âge ou quelquefois un peu plus âgés, mais qui avaient une formation politique parce qu'ils sortaient de la guerre, et c'était passionnant. Et voilà qu'un jour, je pense que ça doit être en 64, parce que je suis partie en 65, avant la rentrée 65, Le ministre de l'Éducation nationale nous réunit. Ce ministre, il était, disons, héros, entre guillemets, de la bataille d'Alger. Mais il avait mon âge, ou 2 ans de plus, je connaissais sa formation. Et mon Dieu, comme on était en 64-65, les héros, on leur avait déjà enlevé leur auréole. Hein. Bon, tout au moins dans le domaine intellectuel. Et donc, il nous réunit tous, et puis il dit qu'ils ont décidé, il dit pas on va discuter. On avait quand même un doyen qui était un pied rouge. Quand je dis un pied rouge, ça veut dire un Français qui avait été avec le FLN, et je veux pas le nommer, mais ceux qui connaissent sauront. Et il était là, il a rien dit. Alors, et ce monsieur ministre dit, eh bien, on a décidé que, à partir de la rentrée prochaine, l'histoire et la philosophie seront désormais enseignées
En arabe.
Alors j'ai levé le doigt, timide, seule femme. Mais quand même, je lève le doigt. Et alors il me regarde avec un air dédaigneux, celle-là qui se prend pour je ne sais pas quoi, parce qu'être romancière, c'était un peu mal vu.
Oui, on y viendra.
C'était un peu comme si j'étais femme de mauvaise vie. Alors, bref, je donne mes arguments. Parce que je dis, j'ai fait 3 ans assistante au Maroc. Et justement, il y avait un enseignement en arabe et il y avait mon enseignement en français. Et monsieur, ce n'est pas des contenus qu'on donne en histoire à la fac, c'est l'esprit critique, c'est une méthode. Et donc, lorsque les arabisants, peut-être ils sont encore un peu, les arabisants mettaient 19 à la copie, moi je mettais 1, ou je mettais moins 1. Et... là, nous avons de très très bons étudiants qui ont l'esprit critique et on va former des gens formidables. Et puis, silence. Les 25 messieurs universitaire et le doyen coopérant universitaire, personne ne dit rien devant le héros. Et donc, le monsieur continue sans me répondre, comme si j'étais un fantôme. Alors bon, malgré que j'étais timide et un peu raide, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas rester là. Bon, eh bien, j'ai dit, alors je me suis levée et je suis partie. C'est comme ça que j'ai quitté l'université et que je me suis retrouvée à Paris, où, mon Dieu, j'ai oublié de demander une bourse pour faire mon doctorat, donc je me suis remis à mon travail littéraire.
Alors, j'ai envie de répondre, parce que c'est évidemment tentant.
C'est très important. Il n'y a pas encore de vrais historiens. En Algérie, il y a des historiens en Tunisie et il y a des historiens au Maroc. Et ce sont des historiens, par exemple les Tunisiens, ils vont aux archives turques. Et les filles que je connais qui sont historiennes au Maroc dépouillent les archives en arabe. Mais les dépouillent. Mais après, elles ont une formation d'esprit critique. Et chez nous, rien. Alors, eh bien, c'est comme ça que c'est la tragédie culturellement dans mon pays, disons deux décennies après.
On y viendra peut-être, mais j'ai envie de rester à
oui,
l'époque où nous sommes.
Et c'est non, parce que ça me fait mal.
Et bien sûr, et de rebondir, parce que vous avouerez que c'est tentant, sur la femme de mauvaise vie. Est-ce que, effectivement, quand on est une femme d'éducation musulmane, écrire, c'est braver pas mal d'interdits?
Comment oui, mais ça, je l'ai dit un peu vite parce que ce monsieur responsable était devant moi.
Oui.
Non,
mais tout de même, vous n'aviez pas le sens de la transgression.
Comment?
Vous n'aviez pas le sentiment d'une transgression à cette époque-là dans les
Non, parce
les
que j'écrivais en français. Peut-être que si j'avais écrit en arabe. Non, et puis j'écrivais, écoutez, mes premiers romans, c'est des romans bien sages, bien construits peut-être, mais bien sages. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas de quoi, j'en sais rien.
Oui, mais encore une fois, dans une société où ce n'est pas si courant.
Oui, mais vous savez, bon, en 62, il y avait tellement de choses qui bougeaient que moi, bon, j'étais prof d'histoire avec plaisir, en ayant de bons étudiants, et je ne serais pas revenue à Paris si tôt. Mais finalement, il m'a rendu service parce que revenue à Paris, excusez-moi, je crois que j'ai essayé de passer ma thèse. J'ai déposé un sujet de thèse, mais brusquement...
Que vous avez oublié.
Oui, c'est ça. Bon, bref, on ne va pas rester longtemps. Moi, je voulais dire simplement que ces quatre romans, c'est un préambule
d'accord,
à mon travail
d'accord.
d'écrivain.
D'accord. Et alors, votre travail d'écrivain, je suis tombée sur cette phrase qui, vous allez nous dire, il se réduit certainement pas à ça, mais en même temps, c'est important. Vous dites, j'écris comme tant d'autres femmes écrivains algériennes, avec un sentiment d'urgence contre la régression, contre la misogynie.
Non, ça c'est bien précis, ça c'est les années 90, lorsque les intellectuels sont visés. Ça c'est pas le sentiment d'urgence, je ne l'avais pas au début.
Oui, alors justement, parlez-nous du chemin que vous avez suivi et des différentes étapes, comment vous les avez vécues.
Comment dire, moi je pense que le préambule c'est les quatre premiers romans, et c'est seulement dans le quatrième, dans Les Alouettes naïves, que je commence à avoir un rapport dans l'écriture avec moi-même. Ça veut dire que quand même, je n'ai pas l'intention du tout de rentrer dans l'autobiographie. Mmh. Voilà. Alors.
Mais.
Non, c'est pour ça que si on doit creuser mon rapport avec les thèmes, avec les personnages,
oui.
etc., ça commence vraiment avec Les Alouettes naïves. Et comme je ne l'ai pas relu, alors je ne peux même pas vous dire. Je sais que j'y avais travaillé. Et puis, Les Alouettes naïves, c'est quelle date, on a dit
67.
Oui.
Mais on peut, effectivement, il ne faut pas rester collé sur cette date. Il faut qu'on avance. Et comment est-ce que... Alors,
le grand événement, c'est que quand même, une fois que je suis restée là, à Paris, 3 ans, 4 ans, j'ai décidé de rentrer. C'est trop long de raconter ma vie personnelle et ça n'a pas d'intérêt. Nous sommes rentrés, le mari et moi, en 60. On rentrait chaque été, en fait. Et puis, l'atmosphère était assez agréable. On allait à la mer. J'aimais beaucoup ma belle-famille. Peut-être de moins en moins le mari, mais ma belle-mère et mes belles-sœurs, oui. Et qu'est-ce que j'allais dire ?
Marquer ses commodes, parce que ça, on peut se dégager du temps comme ça. Pour
parce
être...
que c'était une autre. Ils avaient. Vous savez, l'Algérie, même si on prend ce qu'on appelle les sociétés musulmanes, elles sont multiples. Alors, dans cette découverte pour moi de ma belle-mère et de mes belles-sœurs, c'est qu'en fait, elles étaient Kouloudli. Kouloudli, ça veut dire descendants des Turcs du côté du mari, du côté des hommes. Mmh. Elles étaient d'origine berbère de Boufarit ou de je ne sais pas quoi, parlant l'arabe, évidemment. Mais mon beau-père était imam de mosquée, mais d'une mosquée hanafite. Les rites sont différents. Et donc, dans cette minorité, moi qui étais frustrée de ne pas avoir la langue arabe, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai cru tomber amoureuse, je tombais amoureuse de la poésie anti-islamique. Et je décidais que c'était le mari, puisque quand même, c'est comme ça, la correspondance était une correspondance. Je lui demandais de me recopier les vers et de me les traduire. Mais du côté de la vie au quotidien, c'était très bien pour moi, parce que je découvrais un autre milieu. Et voilà, donc j'étais très bien avec... quand on est venu, non, on est retourné. Donc j'avais mes parents, j'avais ma belle famille. Et je pensais que ça y est, j'étais très bien, mais il fallait quand même vivre. Donc, j'ai décidé que j'allais enseigner la littérature française à la fac. Et dans cette période-là, de 71 à quelque chose comme 78 ou quelque chose comme ça, j'étais tellement assoiffée de voir comment le pays avait changé que ce matin, je réfléchissais à ça. Alors, je faisais mon cours en français. Le doyen avait dit « Ah, madame, vous êtes revenue dans la rue. »« Vous êtes revenue ?» Je lui ai dit « Oui. J'ai besoin de vous comme chair. » Parce qu'il y avait des coopérants. Bon, alors j'ai fait chair et j'avais une assistante égyptienne. Et puis j'ai fait ça la première année. Puis après j'ai dit « Je démissionne, je ne veux faire que mes cours. » Alors dans mes cours, je faisais de la francophonie, mais en allant dans des archives sonores, écouter tout ce qui était les rites des enterrements, les rites des... Il y avait beaucoup de choses qui restaient. Donc, j'écoutais cela. Et puis, après, j'ai trouvé que faire cours juste 2 jours par semaine, il fallait que je fasse autre chose. Je suis allée voir un service de sociologie. Le directeur était un type formidable. Ils l'ont tué 10 ans après. Et il était un élève de Bourdieu. Et donc, je suis allée, je lui ai dit, j'ai encore 3 jours dans ma semaine et je veux faire des enquêtes sociologiques sur l'émigration au rapport avec les structures familiales. Bon, il était très content, je ne lui demandais rien. J'ai fait ça, mais du coup, il m'a donné une équipe d'enquêteurs. Je suis allée à Oran et là, j'ai passé tout un tas n'interviewer que les femmes. Comment elles devenaient ? Elles étaient danseuses, après elles étaient femmes de ménage, après elles étaient prostituées. Mais moi, je ne savais pas qu'elles étaient prostituées, elles ne le disaient pas. Bon, alors j'ai fait du travail, là, et j'ai même commencé à faire un topo. Et puis, après, quand j'ai fini ça, mais que je ne voyais pas où j'allais, ben, j'ai commencé à écrire des articles pour les journaux. Voilà. Qui étaient aussi un peu dans le fait que je voulais... Je ne me voyais pas toute seule parcourir les villes que je ne connaissais pas. Dans mon milieu, les femmes ne restaient, juste en 70, les femmes ne connaissaient que leur ville et la capitale. Mmh. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais découvert les gens des Aurès aux frontières. Et donc, si je faisais des enquêtes, des papiers de journaux pour le journal... Alors, je pouvais aller, c'est comme ça que j'allais toute seule à Tlemcen, j'allais toute seule, et je rentrais dans les maisons, et je discutais, etc. Voilà.
Et comment est-ce que ces enquêtes sociologiques, alors d'un point de vue très concret, ont pu nourrir votre production romanesque ?
Non, ça n'a pas nourri. Simplement, je sentais bien que je ne connaissais pas le pays était. Oui. Alors, j'ai fait ça, j'en ai gardé un truc, quelque chose de très heureux. Et du coup, ayant bougé comme ça, j'ai dit, je vais aller à la télévision, et je vais dire que je veux faire un documentaire. Donc, Les directeurs, c'était des gens qui avaient été étudiants comme moi. J'ai pris rendez-vous avec le directeur et j'ai dit, voilà, je veux... Non, j'ai pas dit je veux faire un documentaire. J'ai dit je veux tourner un film, mais je sais pas encore si c'est un documentaire ou une fiction. Il faut vous dire que j'allais au cinéma. La chose qui me réunissait le plus à ce mari, c'était qu'on était tous les soirs au cinéma.
Même si on se disputait après pour le film. Comment ? C'était quand même encore la fiction, d'une certaine façon.
Alors lui, il m'a dit, oui, mais vous n'avez pas des diplômes d'études du cinéma. Je lui ai dit, j'ai peut-être pas de diplôme, mais je peux vous montrer toutes les critiques que j'ai faites.
En un mois, on fait un film.
Alors je lui ai dit, donnez-moi une salle et je vais voir tout ce que vous avez produit à la télévision. C'était une télévision qui commençait à avoir beaucoup de techniciens, qui formait beaucoup de techniciens. Mais j'ai dit, vos cinéastes, je veux voir. Je me suis fait projeter les 6 ou 7 films, enfin films entre guillemets, et je trouvais ça, l'un il avait fait un film comme on fait une thèse. Je vous assure, à partir d'une thèse de sociologie. Et puis, évidemment, j'ai dit, ben, ce que je veux faire, je ne sais pas encore. Mais donnez-moi une assistante et un preneur de son, et je vais, tout simplement, j'ai dit, je vais aller dans la tribu de ma mère.
Alors ça,
et
c'est,
là,
ça,
c'est ça qui est
la
important.
La Nouba des femmes.
Non, mais c'est ça, ça qui est important, brusquement. Alors, la jeune fille que j'avais voulu avoir comme assistante, qui était désireuse de travailler avec moi, les parents ont dit, tu vas où ? Je lui ai dit, on va aller à Marceau, mais après on dormira dans la famille. La famille n'a pas voulu, parce qu'une jeune fille, elle ne peut pas partir comme ça. Alors, je me suis retrouvée qu'avec des techniciens hommes. Et ça, ça a été la partie, peut-être j'ai fait ça 3 mois, 4 mois, c'est-à-dire que très vite j'ai vu que les techniciens qu'on formait, ils étaient vraiment formés pour la télévision. Quand je leur disais, dans ce village, je vais d'abord faire parler telle femme, ils venaient, ils mettaient les machins, etc. Et puis les femmes, elles ne parlaient pas. D'abord, c'est un homme, même si elle a 70 ans. Alors j'ai compris qu'il fallait que je fasse le travail. Allez vous promener, et puis moi je... Alors naturellement, avec chaque dame, j'étais la fille de Béa, j'étais la fille de ma mère. Et il faut vous dire, vous avez dit ma mère, mais ma mère quand même, il y avait des saints, S-A-I-N-T, deux tombeaux de saints, qui étaient ses ancêtres. Alors le fait d'être la fille de Béa, je apportais la bénédiction. Voilà, alors donc j'ai fait tout ça, et pour faire bref, parce qu'on serait là demain encore, j'ai déposé un projet de scénario. J'ai dit, je ne veux pas beaucoup d'argent, et ça va être un semi-documentaire, semi-fiction. Et à partir de là, tout en faisant mes cours. Donc j'avais une équipe, j'avais pas voulu signer de contrat, je disais, je peux vivre avec mon salaire de prof. Et puis j'ai commencé à faire le tournage.
Et alors cette expérience du film, elle, est-ce qu'elle a eu une influence ?
Ils ont tombé le film. La vraie expérience, c'est tout ce que m'ont appris toutes ces paysannes, voilà, et ces montagnardes. Voilà, elles m'ont raconté le quotidien des 7 ans de... Mais quand elles me les racontaient, j'enregistrais. Et quand après j'écoutais, elles avaient des expressions extraordinaires pour moi. C'était pas simplement le contenu, c'était la forme. Et vraiment, je crois qu'elles m'ont apporté, c'était pour moi un trésor. Et du coup, à partir de là, bon, ben, j'ai tâtonné peut-être pour faire mon film, mais je l'ai fait. Tout le problème, ça a été, quand je l'ai terminé, j'ai eu tout le truc des cinéastes, dits cinéastes, entre guillemets, contre moi et contre mon film. À part deux personnes qui m'ont aidé, ça a été...
Mais cette expérience-là, est-ce qu'elle a eu une influence sur votre manière d'écrire, sur les images, sur le
par la suite, bien sûr, évidemment, par la suite, bien sûr, bien sûr. C'était un ressourcement, vraiment un ressourcement, parce que, je ne sais pas comment dire, donc effectivement, j'ai vu que j'aurais pu être une cinéaste. Le seul jour où j'étais contente, c'est quand finalement... les Italiens sont venus pour voir qu'est-ce qu'il y avait, comme ils se méfiaient de la bureaucratie. Donc, ils ont demandé à voir les films qui avaient été faits dans les 2 ans ou 3 ans. Et c'est comme ça que mon film est allé à Venise. Et puis, alors là, pour la première fois, quand je montre le film, tout le monde en Algérie avait regardé ça avec plein de commisérations, sauf un ou deux critiques qui étaient de vrais cultivés en cinéma. Et donc, oui, j'ai eu vraiment un accueil en Italie extraordinaire.
Et à un moment, parce que si mes informations sont bonnes, la Nouba des femmes du Mont Chenoa, c'est 1978. Donc, à un moment, vous avez hésité entre deux types d'écriture.
Non, je pensais tout de suite, j'ai enchaîné sur un deuxième film qui était un documentaire. Et je pense que c'est plutôt l'opposition du milieu cinéma d'Algérie, où il y avait vraiment, c'était une féodalité, c'était le grand cinéaste, s'il y a bien une palme de Cannes qui a été dévaluée, c'est bien celle qu'on a donnée à l'Algérie. Moi, j'ai regardé ce film. C'était pas une question de cinéma, c'était une question de comment on regarde son passé. Alors, c'était Saint-Sulpicien. Hein.
Mais justement, vous qui aviez une approche nouvelle, est-ce qu'à un moment,
Ah non, ils ont commencé par me persécuter. Et à chaque fois qu'on avait une copie, j'avais deux personnes qui m'aidaient, mais à chaque fois qu'on achetait une copie pour après, elle était volée parce qu'il y avait un grand patron qui, avec le numéro 1 du pays, jouait au domino tous les soirs ou lui amenait des nanas. C'était ça, il y avait une décadence, c'était plus Boumediene, c'était l'autre, c'était le nulard. Bon, alors, voilà, donc c'est pas la peine que je fasse des critiques comme ça, mais enfin, les gens qui connaissent l'Algérie savent bien qu'on est tombé dans une période...
Mais pour ce
alors,
qui
le cinéma, c'était pour eux, c'était des gens qui n'avaient aucune culture tout court, ni de la... Alors bon, il y avait de beaux paysages en Algérie, donc évidemment... À partir de là, on pouvait faire montrer de belles images. Mais je peux vous dire aussi que le cinéma, c'est de l'argent. Et l'Algérie était quand même un bon marché pour les laboratoires français. On a continué ici en France, on a arrêté les documentaires dans les salles, enfin les actualités dans les salles, on a arrêté ça dans les années 70. Mais... en Algérie, on continue à faire une sorte d'actualité par semaine qui, comme par hasard, se tirait ici, dans les labos français, repartait là-bas, et qui dit développement, machin, c'était devenu une affaire d'argent, une affaire de pot de vin, c'était devenu tout ça. Et pour moi, vraiment... Alors, j'ai pas été la seule à être sacrifiée dans ce climat nul... Et délétère, il y avait un autre cinéaste formidable qui a fait son film Nehla, et puis on lui est tombé dessus aussi, et on nous a gentiment écartés. À ce moment-là, j'ai compris que si pour chaque film, après avoir travaillé 2 ans, 3 ans pour faire un film, il fallait en plus, être dans la magouille ou dénoncer la magouille, et etc., etc. J'étais pas... Alors j'ai dit, je m'en vais.
Armée pour ça.
Voilà.
Et pour les livres, quel était l'accueil?
Alors c'est à ce moment-là que j'ai compris que retournant à Paris, eh ben, tout ce que m'avait apporté cette écoute des femmes de ma tribu, et qu'il y avait quand même... une manière, même si c'est le populo le plus... C'était des paysannes ou c'était des grandes dames, mais vraiment des douars. Alors, toute cette écoute sonore, toutes leurs images, en même temps que j'avais quand même pu filmer, tout ça m'a donné... J'ai dit, bon, je pourrais... Avec ces gangsters, je pourrais jamais... J'étais déjà assez âgée, j'avais 40 ans, je ne vais pas passer 5 ans à faire un film et après, dès qu'on me demandait une copie, on la commandait au labo ici, elle coûtait de 20 000 francs ou un peu plus, et quand elle arrivait, elle était volée.
Le livre, c'était plus facile, mais est-ce qu'il était pas... quel était l'accueil qu'on lui faisait en Algérie?
Non, écoutez, moi de toute façon, les livres, ça a été pareil, parce que les livres, c'était au ministère de la Culture qui commandait les livres. Donc, M. Bougédra a eu des succès parce que, évidemment, quand il est rentré, lui aussi, il était dans l'opposition, mais quand il est rentré, il s'est mis là où il fallait pour commander ses livres. Moi, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. J'ai quitté l'Algérie de nouveau en me disant tout ce que m'a apporté mon travail dans les campagnes que j'aurais pu. Bon, et bien maintenant, il faut retourner à Paris, vivre, même si je devais vivre simplement de riz et de je ne sais pas quoi, il faut maintenant écrire écrire en langue française les images et les sons que j'avais emmagasinés. Ça a changé ma façon d'écrire.
Est-ce que vous avez en tête un exemple précis de ce qui vous a changé très, très profondément ?
Écoutez, comment vous dire ? L'écoute d'une femme de chez vous, c'est pas du tout comme l'écoute sociologique où les sociologues, ils font premièrement, deuxièmement, troisièmement, et puis après ils posent des questions, et puis après ils font tout ça. Non, lorsque je rentrais dans une maison et qu'on disait c'est la fille de Beya, même leur façon de me parler avec des mots de tendresse, j'étais adoptée. Je m'asseyais, j'écoutais, il fallait avoir le rythme des campagnes. Bon, il y a eu quand même de grands cinéastes et de grands films que j'ai en mémoire, maintenant je ne vais plus tellement au cinéma, qui ont. Il fallait faire un cinéma de lenteur, pas un cinéma de gangster, même s'il y a eu. Bon, il y avait ça. Mais, comment vous dire, je pense que c'est progressivement. Par exemple, quand je suis revenue à Paris, eh bien, j'ai pensé, parce que si mon film, il ne m'avait pas tellement embêtée, j'avais fait la Nouba des femmes du Mont-Chenois, c'est-à-dire le monde des campagnes, mais j'avais aussi un désir de faire la même chose pour la ville d'Alger, que je connaissais assez bien, que je commençais à connaître. Bon, voyant qu'il valait mieux ne plus perdre de temps, je me sentais vieille à 40 ans, alors maintenant, n'en parlons pas. Alors donc, quand je suis retournée, eh bien, à ce moment-là, j'ai gardé ces sources orales. Et puis, c'est pas ça. La communication entre les femmes de chez vous et moi, ça veut dire que vous... Je m'excuse, mais il y a un texte là qui rend exactement ce que je dis.
Ah, mais nous sommes détruits.
Attendez, ça s'appelle... Je sais comment ça s'appelle. C'est ça qui m'a changé. Ça veut dire même dans le rythme. Alors, je vais regarder ça, puis je vais lire juste un paragraphe. Et puis, c'est pas ça, c'est qu'en même temps, le rapport est affectif. Alors, évidemment, vous êtes adopté par les gens simples. Alors, ça s'appelle... Alors, page 18, je vais lire un petit peu, si vous permettez. Voilà. Ça s'appelle « Assise sur le bord de la route dans la poussière ». Désert, non, je vais prendre un peu plus bas. Assis sur le bord de la route dans la poussière, c'est ainsi que j'aurais voulu débuter. Évoquer à quel moment j'ai senti que je pouvais, moi témoin, ou regard, ou stripteuse, être au dehors, vraiment mêlée au mien, aux tribus, aux fractions, générations mortes et vivantes de ma terre là-bas. En somme donc, ma maison, plutôt ma communauté d'origine. Oui, mêlée, perdue parmi eux, et m'imaginer laisser trace, pour eux, pour tous, pour nous. Écrire pas exactement au prime abord, me réveiller surtout par le regard. Un regard totalement neutre, ni d'homme ni de femme, ou plutôt de femme surgie d'un coup au soleil et dévorant tout à la fois. Je me souviens, j'avais juste 40 ans. À l'époque, je chantonnais souvent avec insolence dans une société où, à cet âge, on marie ses premiers fils, où l'on s'installe dans la respectabilité du matriarcat. 40 ans pour moi, c'était seulement 2 fois 20 ans. Je partis le premier jour de repérage en jeep avec 2 ou 3 techniciens, dont un jeune directeur, je passe. Le premier jour donc sur la jeep et décidé surtout à parvenir le plus haut de la montagne, dans les montagnes de mon enfance, au-delà de la route romaine, les paysans, même en arabe, quand ils disent la route romaine. Ça veut dire elle date des Romains. Sur les pistes, plus haut encore, à travers sentes et ravines. Ainsi, dans ces déambulations de mon premier été de cinéaste, je fus fascinée par un détail récurrent. Partout, sur les routes, hommes et femmes, paysans de tous âges, et les femmes, vieilles surtout, quoiqu'en mitouflées, s'asseyaient en tailleur sur le rebord du fossé, dans la poussière, pour attendre. Le car, une charrette ou un conducteur d'âne, ils se levaient enfin et partaient à leur tour, mais pas toujours les vieilles auprès de qui, assez vite, j'appris à converser. M'installer ainsi dans la poussière blanche et attendre, eh bien c'était simplement regarder. En somme, faire passer le temps. Assis sur le bord de la roue dans la poussière, cela me parut, dès les premiers jours, un luxe royal. J'envoyais l'assistant, l'opérateur, au village le plus proche, chercher où passer la nuit. S'astreindre à quelque formalité administrative, ils avaient la bougeotte. Ils voulaient à tout moment se rendre utile. Moi, enfin seule, assise près du fossé, liant connaissance avec un groupe de fermiers ou de saisonniers, plus volontiers auprès d'une femme accroupie, j'ai plein de photos, sa tête et ses épaules à demi voilées, à côté une grand-mère se mettait à se plaindre de son fils, au hameau voisin, elle me disait « il enferme sa femme ». C'est normal, mais il n'enfermera pas sa mère. Et elle riait. Elle concevait la vie ainsi, se prélasser au soleil, assister au spectacle de la route. Je m'immobilisais une heure ou deux à ses côtés. Ainsi, à 40 ans, je saute. Je retrouvais le monde paysan de ma première enfance. Dans un statut non pas de voyeuse, mais d'androgyne, croyant m'être placée par miracle sur la ligne invisible qui ici séparait les sexes, dans ce pays ségrégué. Je m'illusionnais une troisième fois, habillée à l'européenne, mais parlant le dialecte local, je me sentais, malgré mon costume, admise d'emblée parmi les assis de la route. Voilà. Assis sur le bord de la route, pour ma part, bien sûr, pas en mitouflé, non, les bras nus, le visage offert, le corps s'exposant au soleil, se ridant et riant. Je vieillis donc et j'arrive peu à peu à ce détachement. Sur le bord de la route, dans la poussière, sauf, alors ça c'est écrit dans les années 90, sauf que le spectacle, justement sur la route, désormais vient de virer au sanglant. Défile des hommes portant leur tête coupée entre les mains, ça c'est mon... des femmes, cette fois jeunes et quelques adolescentes, tentant d'empêcher les flots de sang de trop jaillir de leur nuque, de leurs yeux, sur l'autre côté de la route, car je regarde, oui, je continue à regarder, des jeunes gens, des garçons, quelques hommes faits, tous en armes, certains le visage entièrement masqué de noir, surveillent la procession interminable. Écrire une telle nation, garder trace de telles hallucinations. Les palmiers subsistent, flammes vertes au cœur de l'oasis tout près. Quelquefois même un air de flux, de lutte s'échappe d'un patio dans une rue de Médina figée. Assise toujours sur le bord de la route et dans la poussière, rougie. Non, je ne veux pas. Je retourne au désert de mes 20 ans quand je me croyais condamnée au rêve. Voilà. Alors c'est pour vous dire que malgré tout, j'aurais pu peut-être continuer à patienter et à faire des films et entre-temps d'écrire des livres, mais ça a viré au sanglant. C'est les années 90.
Et ce qu'on voit aussi dans ce très beau passage, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que en dépit du fait que vous soyez, comme vous dites, habillée à l'européenne et surtout éduquée par rapport à ces femmes...
Elles sont éduquées, elles, mais d'une autre culture.
D'une autre culture, voilà.
Donc elles avaient
en
à me
cas,
passer des
y
choses.
Il n'y a pas de clivage entre vous.
Non.
Jamais.
À partir du moment où vous parlez le dialecte, et puis pour elles, j'étais la fille de Beya, de même, enfin la plupart.
Si je pose cette question, c'est parce que dans ces voix qui m'assiègent, vous mettez le doigt sur le fait qu'écrire, c'est aussi risquer de casser le lien avec la lignée des femmes. En réalité, ça n'a pas été le cas, au contraire.
Au contraire, ça a renforcé. Et du coup, c'est vrai aussi que je me suis consolée pour le cinéma. D'autant plus que, même si j'étais restée, je ne crois pas que j'aurais réussi à faire quoi que ce soit.
Voilà. Est-ce que vous souhaitez nous lire encore un petit extrait ou est-ce qu'on passe tout de suite aux questions de la salle?
Alors, peut-être que je vais lire... Qu'est-ce que je vais lire? La disparition de la langue française. Mmh. Ce que je veux dire, c'était que ces quatre livres de ma jeunesse, bon, ça a été quand même un préambule. Après, puisque j'ai eu toute cette expérience des repérages de cinéma, j'ai fait un film qui devient de plus en plus introuvable et je ne veux même plus le regarder parce que ça fait mal au cœur. J'en ai fait un deuxième qui était un documentaire qui m'a pris un an, deux ans, mais que, à partir des archives ici... j'ai voulu regarder dans le deuxième Lazerda. Il se trouve que lorsqu'il y a eu la création du cinéma avec les frères Lumière, une des bobines projetées à la fameuse première séance était des images du port d'Alger. Donc à partir de ça, j'ai passé plus de 6 mois au laboratoire, là, j'ai oublié lesquels, LTC ou je ne sais pas quoi, pour me faire projeter tout ce qui était en documentaire depuis la création du cinéma et qui concernait le Maghreb. Ça s'appelle « Le Maghreb, les années 30 ». Et à partir de là, j'ai fait un travail musical, plutôt que de faire un commentaire pour dire ça, c'est ça. Et ça aussi, ça a été pour moi j'ai fait ce travail avec beaucoup de mon côté historienne, peut-être, mais beaucoup aussi des images elles-mêmes. Mais je l'ai fait sobre. Enfin, j'ai fait il dure une heure et quart. Et c'était en réalité, ça permettait après ça permet en fait après, même pour ma littérature et même pour la littérature francophone quand je l'enseigne. Le grand problème en France, et ça c'est particulier surtout à la France dans la mesure où les Français considèrent que la littérature c'est l'activité privilégiée de tous, depuis le colonel en retraite jusqu'au président et jusqu'à je ne sais pas qui, tout le monde écrit. Mais malheureusement, le monde des critiques est un monde très fermé. Et donc, quand je suis revenue, j'ai écrit « Femmes d'Alger » dans leur appartement. Comme il y avait les éditions des femmes, j'ai repris mon texte qui devait aller je ne sais pas où, dans une autre grande maison. Et j'ai quand même voulu essayer les éditions des femmes parce que j'ai dit, au moins là, il y a des femmes de tous les pays. À l'époque, Antoinette Foulque, il y avait des femmes de tous les pays. Et puis, quand j'ai pris beaucoup de temps avec toutes ces expériences du cinéma, du rapport avec ma tribu et tout ça, et que brusquement j'ai commencé à mêler mon enfance, mais avec... J'ai fait 3 mois aux archives de l'ABN, c'était encore Richelieu, et j'ai lu absolument, j'ai une formation d'historienne quand même, donc j'ai relu toutes les correspondances d'officiers français sur la conquête. Et ils écrivaient, ils avaient un beau style parce que c'était des aristocrates. Et à l'époque, on n'était pas hypocrite, ils disaient les choses comme ils disaient, quoi. Donc, tout un tas d'horreurs étaient là, mais bon, moi, ce n'était pas du tout pour en faire de la polémique. Il y avait eu beaucoup de journalistes français qui l'avaient fait. C'était pour réécrire ça des deux côtés. Voilà. Donc, à partir de cette expérience de cinéma, c'est ça que j'ai compris. Que je devais avoir une construction, puisque je suis dans la langue française. Je l'utilise avec les sources françaises ou avec le regard français. Mais puisque je suis dans mon cœur algérienne, autant que je réécrive tout le 19e siècle avec les deux côtés. Et ça n'a pas été facile. Je suis restée 2 ans à essayer que ma structure ne soit pas une structure... voilà. Mais quand le livre est sorti, quand le livre, je l'ai fini, évidemment, j'avais rencontré Françoise, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, elle était sévrienne comme moi, elle m'a dit « Oh, Assia, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» J'ai dit « J'ai écrit un livre et je ne sais pas ce qu'il vaut. Vous promettez de me l'envoyer ?» Je lui ai dit « Oui. » Elle était chez Gallimard. Lorsque je le lui ai envoyé, eh bien, elle ne m'a même pas répondu, elle a renvoyé le texte comme ça. Et mon manuscrit est allé partout. Ça veut dire dans au moins 4 ou 5 ou 6 maisons. On était quand même en 83, 84. Et ils pensaient, en lisant superficiellement, que de nouveau, j'étais là en train de, vis-à-vis de la guerre d'Algérie, de régler les comptes. Mais je vous assure que dans le texte, enfin le livre existe, dans le texte, heureusement, une... Jacqueline quelque chose, qui était lectrice chez Lattès. Enfin, après le 5e, 6e, 7e refus, elle me dit, « Assia, c'est aussi beau à l'époque, il y avait un succès, qui était de l'italienne, une grande romancière, je viens d'oublier son nom. Elle m'a dit, c'est aussi beau que la Storia d'Elsa Morante. Oh, je lui dis, étant donné l'accueil que j'ai eu un peu partout, ça m'étonnerait. Mais elle a défendu le livre quand même, et il est sorti là. Alors déjà, j'ai eu, une fois que je l'avais écrit, il a fallu, je ne sais pas, 2 ans pour qu'il sorte. Et tous mes livres ont été comme ça. enfin tous mes livres, n'exagérons pas, je ne vais pas maintenant, j'ai été persécutée par les cinéastes algériens,
oui.
Je ne vais pas dire que les critiques français, mais c'était trop tôt, ça allait, ils avaient l'impression que c'était sur un plan de revanche. Ce n'était pas sur un plan de revanche, c'est que je suis dans la langue française, donc je suis des deux côtés. Mais en même temps, je savais bien que j'arrivais enfin à rendre, que je gardais dans les dialogues des femmes, je gardais leur...
Une musicalité de leur langue d'origine.
Quelquefois la musicalité, quelquefois la racine.
Oui.
Vaster la prison, aussi. C'est oui, venu vraiment de ça, du fait qu'il y avait un mot qu'avait dit l'autre, ma belle-mère, ma vraie belle-mère, telle que Vaster la prison, je vais au hammam avec ma belle-mère, j'adorais aller, ça me rappelait mon enfance. Et puis quand on sort, ma belle-mère, elle voit une femme, elle lui dit « Pourquoi tu pars ?» Reste, on va, parce que les femmes aiment bien dans la salle tiède, aiment bien se raconter, elles tiennent salon. Elle a dit non, je ne peux pas parce que l'ennemi est à la maison. L'adou, Rafdar. Alors moi, j'ai regardé, elle est partie, elle était épanouie, elle était très parfumée, machin, elle a dit l'ennemi est à la maison, je ne peux pas rester avec toi. Ça, c'est à Blida. Et chaque ville a sa façon de parler. Je me suis retournée vers ma belle-mère et je lui ai dit « Qui c'est cet ennemi ?» J'ai dit « C'est un voisin qui les empêche de je ne sais pas quoi. » Alors ma belle-mère, elle a baissé les yeux, gênée. Elle a dit « Dans notre ville, c'est comme ça qu'entre femmes, on appelle le mari. »
En tout cas, ce soir, ils en prennent pour leur grade. Hein. Alors, puisqu'on parle de langue, est-ce qu'on vous écoute un tout petit peu dans la disparition de la langue française ?
Voilà. Alors, il faut vous dire que dans la disparition de la langue française, petit à petit, parce que finalement, cette espèce de moralisme de ma société, il garde des traces dans mon éducation et dans ma manière d'être. Donc, disons que je ne suis peut-être pas prude, mais je ne me permettais pas beaucoup d'audace. Et puis, avec le fait que maintenant, je suis de plus en plus... dans la construction de mes... Enfin, je sens tout de suite la respiration de mes livres quand je les écris, donc je peux aller un peu plus vite. Donc je me suis enlevé mes peaux de mon éducation bourgeoise. Alors, donc, la disparition de la langue française, toute l'histoire est presque un documentaire. C'est un ami qui était tellement, souffrait tellement de voir la casbah partir en morceaux, qu'il a commencé à me la raconter comment c'était son enfance. Alors tout ça, c'est la première partie. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai dit, bon, je vais narrer, et puis je vais t'envoyer tout ça. Et puis je dis, mais quand même, un roman, il faut une histoire d'amour. Donc,
c'est le minimum.
Alors j'avais une autre amie qui m'avait raconté... Alors il y a deux choses qui, dans ce livre, correspondent pour moi à une sorte d'avancée de moi par rapport à moi, de moi algérienne par rapport à moi romancière. Donc elle raconte, alors ça je trouve pas la lecture, mais je vous le dis tout de suite, cette amie m'a raconté comment, mais elle me l'a raconté un peu en cachette, comment enfant, elle avait vu son grand-père qui était un bijoutier très riche, etc., et comment le FLN, les premières années, lui demandait le pressurer, et puis le pressurer de plus en plus, un peu trop. Alors à la fin, il a résisté, il a dit « je vais fermer boutique ». Mais il était assez riche pour s'habiller chez les tailleurs londoniens et changer de voiture tous les ans, etc. Mais malgré tout, il a résisté. Alors, ils l'ont abattu. Et ça, quand elle me l'a raconté, quand elle m'a raconté ça, elle en a gardé une... Et j'ai gardé un an, deux ans après, j'ai... Pour la première fois par rapport à moi, je voyais, bien sûr que je savais qu'il y avait des injustices de règlement de compte du Parti nationaliste à l'intérieur, mais pour la première fois, j'avais une jeune femme qui racontait comment son grand-père avait été tué et comment sa grand-mère est sortie en oubliant son voile et tout, est sortie pour aller le chercher et comment elle était devenue presque folle. Mais la fillette, elle avait 5 ans, 6 ans. Du coup, elle a quitté l'Algérie. Elle m'a raconté ça, donc je le raconte. Et c'est cette femme, cette jeune femme, qui, passant son temps dans tout, un tas de pays sauf l'Algérie, bon, je la fais entrer dans cette histoire. Donc c'est un documentaire des deux façons. Alors, elle est présentée à ce Berkane, il s'appelle Berkane. Je lui ai expliqué que je l'avais appelé Berkane parce que la famille de ma mère, c'est Berkani, donc c'était une manière de me le rapprocher de moi. Alors, il y a donc une histoire d'amour entre eux, et je raconte une nuit, une deuxième, une troisième nuit avec Nadjia. Avant cette dernière, nous n'avons pas quitté ma chambre, nous avons vécu dans mon lit, pour ainsi dire. Entre deux nuits, elle est partie. Des affaires urgentes à régler à Alger, avait-elle soupiré. Je l'ai entendue faire démarrer la voiture, repartir à la capitale, juste pour la journée. Pour ces formalités en cours, je reviens aussitôt, avait-elle promis. En français, cette fois. Oui, parce que je raconte une première scène d'amour en montrant que ce qui touche le... Je suis du côté du narrateur. Et ça, évidemment, c'est mon imagination. Donc, ce narrateur, il a vécu longtemps en France. Il avait une amie française et puis un beau jour, il a décidé de rentrer pour écrire le livre qu'il porte. Et puis, quand il rencontre cette fille et qu'il y a une histoire d'amour entre eux, il est frappé par son accent et par sa manière de... Parce que l'arabe dialectal, il change selon de ville en ville. Donc, quand ils font l'amour la première fois, elle lui dit des gentillesses dans cet arabe-là. D'accord ? Donc, il reprend lui aussi un peu ses racines. Alors maintenant, je reprends ma phrase parce que c'est une très très longue phrase. Je l'ai entendu faire démarrer la voiture, repartir à la capitale, juste pour la journée. Pour ses formalités en cours, je reviens aussitôt, avait-elle promis, en français cette fois. Elle m'a tendu ses lèvres dans le vestibule, elle s'est collée contre moi, debout, à moitié habillée, ou avant de se rhabiller tout à fait. Elle a promis doucement, en mots arabes, presque de caresse, « Ya Habibi », disait-elle pour ponctuer ses phrases. Elle a promis que de retour avant la nuit, elle viendrait directement chez moi, pour une autre nuit, exactement comme celle-ci. Et elle ajouta tout contre mon oreille, soudain j'oublie ses mots de douceur, mais pas le sens, pas sa respiration, pas son parfum mêlé à l'odeur de nos draps, et peut-être de ma transpiration à moi, je ne l'oublie pas, et l'odeur de mon sperme sur elle, j'ai tenu à la humer une dernière fois entièrement avant qu'elle ne sorte, elle, debout dans le couloir, moi la plaquant contre le mur, elle retenant son souffle, me laissant la lécher de haut en bas, accrochant ses doigts dans mes cheveux, ma tête déjà sur son ventre, ses hanches, elle relevant sa jupe, je l'entends au-dessus de moi soupirer, râler un long feulement, un début de chant rock, et ces deux mots, « Ya Habibi, Ya Habibi ». Moi, je m'étouffe presque contre ses reins, je la tourne, la retourne, elle soupire encore, une, deux fois, toujours appuyée contre le mur, mon visage à moi, ma bouche vorace et qui a soif et qui a faim, je la parcours entièrement de ma langue, moi buvant cette femme dans tous ses creux et ses interstices, encore et encore, pour qu'elle revienne. Elle est revenue le soir suivant, elle a frappé deux, trois fois contre le bois de la porte, elle n'avait pas vu la sonnette, j'avais déjà entendu la voiture s'arrêter devant le portail en bas, je n'avais pas bougé, sa promesse du matin dans le couloir était fichée en moi, j'attendais, je n'étais pas si sûre, suis-je restée collée à elle et contre sa peau et entre ses jambes, tandis qu'elle allait à la banque, chez Driss pour ses affaires, à l'agence de voyage pour son billet d'avion, j'attendais tout ce temps. Elle a ouvert la porte après avoir frappé, ou plutôt gratté le bois trois fois. Elle a fait quelques pas toujours dans ce même couloir. Je l'ai enlacée, emprisonnée. Je l'ai fait revenir dans cette chambre, mon invitée, ma visiteuse, mon amoureuse, ma reine, comme disait l'Arqiya. Et ça continue.
Et ça continue, et on vous écouterait très volontiers, Assia Djebbar, mais je vois que le temps avance. Alors, et il y a peut-être des questions dans la salle. S'il y a un micro. Il y a un micro qui arrive.
Je vous remercie beaucoup, Florence.
On a fini le temps. Oui, maintenant j'ai deux questions.
Oui.
Non, pour que je réponde brièvement.
Oui, Florence Noiville, je vous remercie beaucoup de votre présentation. Vous avez réussi l'exploit de recevoir Assia Djebbar sans jamais prononcer le mot de Algérie ni de Algérienne, et en commençant par un cursus scolaire. Alors, je voudrais poser une question à Assia Djebbar. Vous avez souvent repris l'expression de Kateb Yassine, à savoir que la langue était un putain de guerre. Donc, est-ce que vous diriez que pour vous, par exemple, l'écriture était un butin de guerre. C'est la première chose. Toujours pour répondre à la question qui, évidemment, est une question très intéressante. Pourquoi écrire? Pourquoi écrivez-vous? Et puis, la deuxième chose, qu'est-ce que vous penseriez, peut-être dans l'écriture, du passage c'est à vous lire que ces pensées me sont venues, bien sûr, c'est à vous lire, vous, Assia Djebbar, du passage à l'intérieur de l'écriture à la parole. C'est les deux choses sur lesquelles j'aimerais vous entendre, en fait.
Alors, un butin de guerre, non, moi, je ne suis pas dans ces rapports-là. Mais il faut comprendre que Kateb, fils quand même d'un outil judiciaire, c'est-à-dire de quelqu'un qui était complètement dans l'arabe, bon, il a vécu le traumatisme du 8 mai 45, c'est-à-dire en tant que lycéen, en tant que voyant la brutalité sous ses yeux. Moi, je dois dire, j'ai raconté un peu mon trajet, mais finalement, j'ai pas été très, comment dire, j'ai pas subi, j'ai pas été marquée. Bien sûr que dans mon dernier livre, je raconte le pensionnat, où donc j'avais des amis, des amies françaises. Mon meilleur professeur était vraiment une femme formidable. Donc j'ai vécu la période coloniale avec, en bénéficiant de passages. Ça veut dire que mes amis du pensionnat, ou même mes amis de Sèvres, elles sont restées mes amies en dehors d'un tas de... D'ailleurs, il y en a une qui a fait de la prison dans les réseaux Janson, et moi, je n'ai pas fait de prison, j'ai pu passer... Bon, bref, je ne sais pas ce que vous, finalement, vous voulez vraiment me demander.
C'est justement, c'est lié à tout cet apprentissage, en fait, dans une langue, puisque vous avez, c'est des choses que vous avez développées, le rapport entre le français, l'arabe, le berbère,
oui.
Cette question des langues et cette question de l'accès. Par exemple, en réalité, vous voyez, je ne pourrais pas dire, peut-être que j'ai tort, mais je ne pourrais pas dire que Assia Djebbar, c'est un écrivain appartenant à la littérature francophone. Je préférerais, par exemple, parler de francographie, c'est-à-dire l'accès au français comme un accès à l'écriture, etc. Et donc, voilà, c'est ces entrées-là aussi qui m'intéressent, sur lesquelles il m'intéresse d'avoir plus de détails de votre part.
Oui, mais la francophonie, elle est très large. Je suis comme les Africains, comme les Antillais, ayant le français qui s'ajoute à ma langue maternelle. Ma langue maternelle, ce qui a été un manque pour moi, c'est que cette langue maternelle, à part que j'allais à l'école coranique, et donc j'ai appris le Coran par cœur, si bien que par la suite, je prends quand même un Coran avec la traduction de tel ou de tel, ou bien il faut qu'on me le voyelle. Donc c'est ma faiblesse en arabe littéraire, mais ça vient aussi que l'arabe parlé, pour moi, il a une vraie, comment dire, une vraie présence. Il a une vraie présence. Il est même plein de, enfin, il change, comme on peut dire. Et donc, il a une réalité pour moi. Et que quand même, j'aurais dû, puisqu'on a fait mon trajet scolaire, après la première année de Sèvres, au lieu de faire la grève, j'aurais dû demander à aller faire 2 ans, 3 ans. Mais après, bon, comme j'ai été dans mon travail littéraire, à chaque fois, je me dis, bon, il faut peut-être y aller. Et puis, je n'y vais pas. Et puis, je fais avec. Donc, ma langue d'écriture reste le français. Mais ma langue d'écriture en arabe, c'est juste pour... Si je devais oublier mes prières, que je ne fais pas, mais que je pourrais faire un jour, peut-être juste avant de mourir, bon, j'ai pas besoin de... Il faudrait que je les écrive et puis que j'apprenne par cœur le Coran, non. Je prends un Coran avec les deux, en arabe et en français, et puis je le lis en arabe, parce que quand même, je ne veux pas déformer... Voilà, non, je suis dans le français, mais je suis quand même francophone. Pourquoi vous dites que je ne suis pas francophone ?
Alors, on va prendre une autre question sur la langue, l'écriture ou l'Algérie et les femmes algériennes.
Je ne pense pas qu'une langue soit véritablement un butin de guerre. Si même aujourd'hui, des États dépensent des sommes colossales pour diffuser et implanter leur langue dans d'autres régions du monde, ce n'est pas pour faire plaisir aux autres. Ce qui m'amène à poser la question à Mme Assia Djebbar concernant votre départ de l'école normale et à cause de l'arabisation. Est-ce que vous ne trouvez pas légitime qu'un pays qui sort d'une guerre atroce et qui recouvre son indépendance après tant de souffrances ait le droit légitime de recouvrer sa langue nationale et par conséquent sa culture? Parce qu'une langue n'est jamais neutre. Une langue véhicule toujours une culture et peut-être même une domination, qu'elle soit politique, économique ou culturelle. La langue n'est pas neutre.
Non, mais quand même, moi, j'ai dénoncé cette décision purement bureaucratique pour l'enseignement de l'histoire, parce que ça aurait dû être un dialogue. Ça aurait dû être un dialogue, et on aurait pu leur expliquer que, quelquefois, les gens ignorent même, ils pensent que ce monsieur qui était ministre, et qui, mon Dieu, avait peut-être bien fait la guerre de la bataille d'Alger, quand on enseigne l'histoire, on n'enseigne pas des textes qu'on fait apprendre par cœur aux gens. Et donc, il y avait à l'époque, en 62, je ne sais pas maintenant, selon les pays, mais on a continué à réserver l'arabe dans certains secteurs, et la bonne bourgeoisie faisait éviter à ses enfants ces secteurs-là pour pouvoir les envoyer dans des filières scientifiques. Alors qu'en réalité, il n'était même pas conscient que l'arabe pratiqué en Algérie, même comme ça, avait besoin d'être rénové sur le plan d'outils scientifiques. Enfin voilà, c'est un vrai débat, mais on n'était pas dans la concertation. Donc moi, à ce moment-là, j'étais vraiment... Je peux vous dire, les 3 ans où j'ai enseigné l'histoire, j'avais des étudiants exceptionnels. Et j'enseignais pas l'histoire seulement à la fac, il y avait un institut de... Comment ils appellent ça? Comme l'INA, un institut national pour les...
Audiovisuel?
Oui, alors j'allais faire des conférences à l'INA qui était d'un bon niveau, par contre.
Alors, on va prendre une question.
Oui, bonsoir. On a parlé tout à l'heure d'étapes d'écriture. Donc la première, c'était à partir des 4 premiers romans. Il y a eu la seconde étape, peut-être, après le film cinématographique.
Oui, après, j'évolue comme tous les écrivains.
Alors, est-ce qu'on peut considérer que Nulle part dans la maison de mon père est l'aboutissement de cette seconde étape? Je me pose la question si l'écriture sera différente à partir de ce dernier roman.
Merci de poser la question, mais en même temps, elle me fait un peu souffrir parce que je ne me suis pas encore complètement détachée de ce livre. C'était une sorte de parenthèse.
Mais vous aviez demandé qu'on en parle pas peu.
Oui, c'est ça.
C'est la raison pour laquelle...
Oui, ça m'a rendu malade physiquement. Mais ça, je sais bien pourquoi. Parce que, quand même, quand on a été éduqué d'une certaine façon jusqu'à 17 ans, on en garde les traces. Donc, je n'ai pas l'intention de continuer cette veine-là avant longtemps. Mais bon, vous savez, quand je l'ai écrit, je me suis dit, c'est bizarre, ce livre, c'est un roman du 19e siècle. Il n'y a rien dedans, je vais me ridiculiser. J'ai changé d'éditeur pour être sûre que quand même, peut-être, il valait quelque chose, et puis c'est tout. Alors, j'aimerais bien qu'on pose des questions, finalement, sur ce livre, même si je suis pas obligée de répondre, parce que je voudrais vraiment me rassurer si je devais l'écrire. Parce que c'est de l'ordre de, vous savez, chez nous, justement, dans le vécu islamique, il n'y a pas de confession.
Alors, il n'y a pas de confession. La population, on peut encore prendre une ou deux questions. À moins qu'il n'y en ait plus, mais il m'avait semblé que...
Ben voilà, il n'y a pas de questions. Même pas pour me rassurer.
Si, en voilà une.
Oui.
Rebonsoir. Comment avez-vous vécu votre promotion, votre cooptation à l'Académie des sciences morales et politiques?
Écoutez, alors là, vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire? Rien. comment je l'ai vécu. Il y a eu des problèmes d'uniforme, de veste, de machin. Une fois que j'ai mis le doigt, il fallait aller au bout, parce que si j'étais pas allée au bout, voilà. Alors, ça m'a fait un an d'arrêt dans ma production littéraire.
À propos de votre dernier livre, vous dites que vous vous êtes demandé si ça valait le coup de l'écrire, mais vous avez très bien fait de l'écrire. C'est vraiment la chronique, comment dire, de toute une période.
La chronique de toute
une chronique. Oui.
Entre autres, parce que c'est à la fois votre histoire et l'histoire de toute une génération de femmes qui ont vécu un peu à travers différentes villes d'Algérie. Hein. Moi, je ne suis pas du tout de la même région. Je suis un tout petit peu plus jeune, mais j'ai vécu les mêmes réalités. Bah, écoutez, quand je l'ai fait lire à ma fille, je lui ai dit qu'elle pouvait considérer que j'avais vécu comme cela.
Ah, vraiment ? C'est bien que vous me disiez ça, voilà.
Et je ne suis pas la seule. D'autres copines de mon âge l'ont lu et ont trouvé aussi que c'était une excellente idée, que c'était un livre qui avait tardé à venir.
Eh bien, vous voilà
et pour lequel nous vous remercions.
Merci. Et moi, je vous remercie de ce que vous me dites, parce que bon, il faut maintenant passer à autre chose. Mais quand même, je me demandais à quoi ça m'a servi, sauf que ça m'a donné des problèmes même physiques.
J'imagine, mais je crois que c'est une réalité qui échappe aux jeunes d'aujourd'hui. Je crois que l'indépendance a été un énorme bouleversement. Et les jeunes qui n'ont pas vécu la période coloniale, par exemple, et cette espèce d'ambivalence dans laquelle une génération a grandi, ne pouvaient pas l'imaginer. Donc ils peuvent trouver force détails sur la façon dont une femme pouvait vivre dans les années 40, 50, 60 en Algérie.
Oui, merci. Merci beaucoup.
Merci, madame. Vous voilà rassurée, Assiette Djebbar. Est-ce qu'on clôt là notre débat ? Moi, j'avais une toute dernière question. On me dit que Assia signifie consolation.
Assia. Oui, oui.
Ça m'intriguait.
Oui. Ben, vous savez, j'ai pas commencé par Assia, j'ai commencé par le nom. Alors. On allait de la rue Saint-Jacques à la rue de Monsieur Julliard pour signer le contrat. Et donc je disais, il me faut un nom et après un prénom. Alors le fiancé que j'avais, ayant une formation juridique, me disait toujours qu'il connaissait par cœur les 90 surnoms qu'on donne aux prophètes, mais avec un moyen
technique.
Alors j'ai dit, ben, tu vas aller te faire défiler, parce que moi, je connais par cœur la liste des empereurs romains, de la même façon. Et donc, il a fait défiler le prophète, pas Dieu, le prophète, je crois que c'est pour le prophète, c'est pas pour Dieu. Bon, c'est pour Dieu ? Ah bon, Dieu le grand, le généreux, le etc., etc., etc. Et puis quand il a dit Djebbar, j'ai dit, attends, Djebbar, ça veut dire en dialectal, c'est quelqu'un de dur. Hein ? Il m'a dit, c'est pas exactement dur, c'est intransigeant. Ah, j'ai dit, ça me convient. En littérature, quel que soit le livre que j'ai écrit, je n'ai pas écrit le livre pour faire plaisir ou pour avoir du succès, que je n'aurai jamais, mais pour ce que je crois. Hein, je prends un fil et puis il faut que j'aille à l'autre bout. Donc j'ai dit ça me convient sur le plan de règles esthétiques, mais maintenant il faut trouver un prénom. Alors il avait plusieurs sœurs que je connaissais pas, et donc dont je connaissais les prénoms. Alors j'ai pris simplement il y a des prénoms, c'est comme quand ma fille a eu sa fille, je dis il faut prendre un prénom arabe qui s'il est prononcé plus souvent en français, il faut pas le déformer puisqu'il y a des lettres arabes. Si vous dites Yahya, ça fait Yaya. Pour ceux qui ne prononcent pas. Or, Yahya, à ce moment-là, autant dire Jésus que Yahya. Parce que c'est le nom de Jésus.
Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste Yahya, pardon. Yahya, c'est vrai. Aïssa. Alors, même Aïssa, ça fait Aïssa. Hein? Alors donc j'ai dit bon ben j'ai regardé les prénoms qu'il y avait dans sa famille et j'ai dit je vais prendre Assia. Et le sens Assia, alors moi je savais que ça voulait dire celle qui accompagne. Et puis bon, lui m'a dit non, ça veut dire je sais pas quoi, Assia. Il m'a donné un autre sens. Mais enfin bon, comment? Non, je crois
pas. Ça ne veut pas du tout dire consolation. Alors, une fois de plus, mes notes étaient fautives.
Oui, oui, oui. Essia, ça veut dire. Ah. Ou celle qui accompagne, ou celle qui accompagne, donc qui console. Alors, voilà, ça faisait. Sauf que j'ai oublié de mettre de B. Parce que Jebar, c'est avec un Shedda. Alors, ça s'appelait Jebar. Alors, pour en terminer avec l'académie, j'ai reçu plein de lettres d'insultes. Naturellement, c'était pour la fameuse phrase qui était dans mon discours où on m'a dit comment vous arrivez dans le sein des saints et vous osez dire je sais pas quoi. Mais j'ai mis cette phrase pour un tas de raisons, pour dire que je suis là, qu'il faut qu'on m'accepte avec tout ce que je pense. Mais cette même année, 4 ou 5 mois avant, les députés français avaient voté le fait que le colonialisme a un aspect positif. Alors donc, j'ai éprouvé le besoin de dire que je ne le crois pas. Alors j'ai reçu des lettres d'insultes de cela. Et puis aussi, ah oui, les autres lettres de gens qui signaient d'ailleurs et qui donnaient leur adresse, mais je n'ai pas répondu. Il disait, oui, vous êtes berbère, himalayenne, c'est berbère, et vous avez honte de votre berbérité, vous parlez que de l'arabe et pas du berbère. Alors, himalayen, en plus, en arabe, himalayen veut dire gracieux, parce que salé, parce que quand on dit de quelqu'un a du sel, le melh, c'est le sel. Donc, j'ai du sel, grâce à mon père. Mais en fait, c'est mon père qui est berbère, alors que la racine est arabe. Et c'est ma mère qui est berkani, enfin, ou sahraoui, et qui est typiquement arabe. Alors, ma langue maternelle, c'est l'arabe, parce que c'est ma mère qui me parlait, et mon père me parlait en français. Alors, je ne réponds pas à tous ces gens-là, mais bon, voilà.
Assia Djebar, merci. On me fait signe qu'il faut rendre la salle. On vous remercie infiniment. Merci à vous tous et bonne soirée.